L'actualité des Alpes du Sud et la justice face à l'affaire Norotte et la procédure de cimentoplastie discale.
Cet ancien médecin de l'hôpital de Gap comparé pendant 3 jours devant le tribunal correctionnel pour cette technique qu'il aurait utilisée durant 3 ans alors qu'elle n'était pas reconnue valide. Un procès fleuve pour de la correctionnelle car 126 victimes sont avisées dans la citation.
11 réfugiés ukrainiens sont arrivés hier à l'Argentière-l'ABC.
Les bénévoles étaient éprouvés après un périple de 3500 km pour aller les chercher jusqu'à la frontière ukrainienne. Témoignage dans ce journal.
Manosquin, levez le pied.
La ville s'équipe d'une voiture banalisée avec un radar embarqué. Elle contrôlera les excès de vitesse.
Et on respire mieux dans les écoles d'Embrun.
La ville se dote de capteurs de CO2. Vert, c'est tout bon, mais rouge, il faudra aérer.
Et puis Ligue Magnus et Diable Rouge qui pourraient éventuellement pousser un ouf de soulagement.
La Fédération française de hockey sur glace envisage le statu quo, pas de montée en Magnus pour le champion de France de la D1, pas de descente en Division 1 pour la lanterne rouge de la Magnus. Côté météo, c'est printanier aujourd'hui.
Oui, un temps sec et bien ensoleillé qui se poursuit tout ce mercredi sur nos deux départements avec des températures 12 à 17 degrés pour les maxis cet après-midi. Ce sera l'une des affaires judiciaires les plus médiatisées de ces 5 dernières années dans les Hautes-Alpes. Dès ce mercredi, c'est la justice qui est face à l'affaire Norotte.
Cette fameuse affaire de la cimentoplastie discale dont les retentissements avaient provoqué une crise sans précédent au sein de l'hôpital de Gap. Le docteur Gilles Norotte, ancien chirurgien orthopédique de l'établissement hospitalier, aurait donc pratiqué la cimentoplastie discale sur plus d'une centaine de patients. Une technique qui consiste à injecter une sorte de ciment directement dans les disques de la colonne vertébrale plutôt que dans les vertèbres, pratique qui est toujours considérée comme non valide par la Société française de chirurgie rachidienne. Pendant 3 jours donc, ce médecin sera assis sur le banc des prévenus. Christophe Lourenceau pour Alpe 1.
À la suite d'une enquête préliminaire confiée à l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, le procureur de Gap, Florent Crouy, a décidé de convoquer devant la justice Gilles Norotte. Une comparution pour l'ancien chirurgien du CHICAS de Gap pour des infractions de recherche biomédicale sans autorisation et sans consentement commises sur la période de courant janvier 2015 à courant décembre 2017. Fait assez rare pour le noter, ce procès en correctionnel s'étale sur 3 jours pour l'une des affaires les plus médiatiques des 5 dernières années sur le territoire. 3 jours qui ne sont pas de trop, juge le procureur Florent Crouy.
C'est beaucoup, mais c'est un procès qui est exceptionnel. Alors, déjà, l'enquête et l'affaire a été exceptionnelle, de par l'impact médiatique qu'elle a pu avoir. Nous sommes ensuite en présence d'infractions très techniques, prévues et réprimées par le Code de la Santé publique. Un certain nombre de personnes seront citées à comparaître et à témoigner au cours de ce procès. 126 victimes avisées dans la citation, donc possiblement présentes le jour de ce procès. Donc, toute une logistique qui nécessitait à minima ces 3 jours, avec des journées, je pense, très bien chargées.
Cette affaire dite de la cimentoplastie discale a mis à mal l'hôpital de Gap, car tout commence avec la dénonciation en 2018 du docteur Raouf Amami, qui a même été reconnu comme lanceur d'alerte par la Défenseure des droits. Des tensions préexistantes entre les deux praticiens ont plongé l'établissement dans un climat délétère avec une vague de démissions, d'arrêts maladie et d'annulations d'opérations en février 2021. Depuis, le collectif pour l'avenir du CHICAS a été créé face à l'inquiétude de ne pas poursuivre les soins en traumatologie d'urgence à cause de ce conflit interne, même si le doigt des soignants est plus particulièrement pointé sur le docteur Amami, jugé d'initiateur des débordements. Le calme semble être de nouveau de retour avec les déplacements d'office des deux chirurgiens sur un autre établissement après 2 suspensions initiales. Aujourd'hui, Gilles Norotte compte bien prouver son innocence devant la justice et démontrer tout simplement qu'il est un bon médecin.
Merci Christophe. Notez que Gilles Norotte encourt pour les 2 délits qui lui sont reprochés 1 et 3 ans d'emprisonnement ainsi que 60 000 euros d'amende. Devant la justice aussi, c'est le protocole Loup. L'association environnementaliste One Voice a déposé 2 requêtes en annulation contre 2 arrêtés d'octobre 2020. Le premier qui fixe le nombre maximum de loups pouvant être tués chaque année et le second qui autorise le tir de 19% des effectifs de canidés par an, voire même 21% dans certains cas. Cette proportion correspond à 118 loups en 2021, autant En 2022, dénonce One Voice, l'association met en avant l'avis défavorable rendu par le Conseil de la protection de la nature sur ces deux arrêtés et avance aussi le classement de l'espèce comme vulnérable par l'UICN. L'audience est donc prévue pour ce mercredi 14h devant le Conseil d'État. Au 22 février dernier, 5 loups ont été tués en France, dont un dans les Alpes-de-Provence, un département qui a délivré 522 arrêtés de tir de défense simple contre 540 pour les Hautes-Alpes.
L'un des autres titres de l'actualité, c'est évidemment l'invasion russe en Ukraine qui jette sur les routes des milliers de réfugiés.
Et ce magnifique élan de solidarité d'une poignée d'habitants du pays des écrins qui a fait boule de neige. Il y a une semaine, Freddy Voiron décide de lancer une collecte de denrées et matériel dans la communauté de communes. Très vite, les fourgons se remplissent et a alors pris la décision d'acheminer ses dons directement à la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine à Sighetu Marmației et de revenir avec des réfugiés, 11 au total. C'est le projet Urgence Ukraine, un périple de 3 500 km qui s'est achevé hier. Écoutez Freddy Voiron, visiblement très ému à son arrivée.
Le regard des gens et la confiance qu'ils mettent en nous sans nous connaître pour revenir. Émilie a pas de famille. Elle nous confie sa vie et celle de son fils. Elle fait 1200 km pour nous joindre et elle vient avec nous.
Et parmi les 11 réfugiés arrivés ce mardi sur le sol alpin, une jeune femme et son fils, originaire du Cameroun mais résidente en Ukraine, elle a dû tout quitter pour venir en France et se mettre à l'abri.
J'étais dans la ville de Nikolaev en Ukraine, donc près de Kherson, au sud de l'Ukraine. Ah, ça a été difficile parce que, par exemple, la ville dans laquelle je me trouvais, on était cernés, il n'y avait pas de moyens, donc la gare pour le train avait été bombardée. Donc on a dû rester bloqué dans la ville pendant des jours et des jours. On n'avait pas moyen de sortir. Donc ça a été vraiment difficile. Mais finalement, par la grâce de Dieu, nous avons trouvé quelqu'un qui a accepté de nous amener à un prix 10 fois plus cher que d'habitude. C'est comme ça qu'on a pu arriver d'abord premièrement à la ville d'Odessa, ensuite à la frontière roumaine. J'espère vraiment retourner parce que ma vie y est. J'ai là-bas un époux, j'avais un époux, nous avions un fils. Et j'espère vraiment y retourner parce que j'avais déjà ma vie là-bas. J'étais en fait résidente permanente là-bas.
Des propos recueillis par Thibaut Durand. Notez que des contacts sont pris avec différentes communes qui accueillent des réfugiés pour faciliter la mise à disposition de repas. Une association pourrait même voir le jour afin d'acheminer du matériel médical et chirurgical en Ukraine.
Dans le reste de l'actualité, un homme grièvement blessé après être passé par-dessus son balcon.
Ce trentenaire a fait une chute de 3 mètres de haut. C'était à Sisteron hier vers 15h30. Il souffrait d'un grave traumatisme crânien. Pris en charge par un médecin-pompier et deux gendarmes, secouriste du PGHM de Josier, il a été héliporté sur Marseille. À Manosque, il va falloir lever le pied. La ville vient de s'équiper d'un véhicule banalisé avec un radar embarqué. Un dispositif qui s'ajoute au renforcement de la vidéo-verbalisation. Cette voiture contrôlera les excès de vitesse dans et autour de la cité Giono pour le compte de la police nationale.
Dans l'actualité également, on a consommé moins de gaz l'an dernier en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
38 TWh, soit une diminution de 6% selon les chiffres de GRT Gaz, l'un des deux gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ou assimilé en France. Moins de gaz consommé également dans les industries, moins 13%. En revanche, chagrin pour la consommation des distributions publiques. En effet, la température annuelle a été plus chaude en 2020 par rapport à 2021 et donc forcément il y a eu plus de consommation, 16,7%. Notez finalement que sur la question de l'hydrogène, GRT Gaz a lancé récemment au sein du bassin Fos-Marseille l'étude pour réaliser un réseau mutualisé de transport d'hydrogène entre Fos-sur-Mer et Manosque.
Vert, tout va bien. Rouge, attention, il faut aérer. C'est la ville d'Embrun qui vient de doter ses classes des écoles primaires et maternelles de capteurs de CO2.
Une cinquantaine au total ont été installées dans les classes, mais aussi dans les restaurants scolaires. Il y a 5 ans déjà, une étude avait été menée. Des actions pour améliorer la qualité de l'air avaient été mises en place. Avec la crise de la Covid-19, ce geste simple d'ouvrir les fenêtres a encore pris plus son sens. Ces capteurs de CO2 sont désormais une garantie de la qualité de l'air, selon Vibeke Sylvestre. Elle est conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires à Embrun.
Il y a plusieurs actions à mettre en place pour la qualité de l'air. C'est par exemple de ne pas stocker certains produits dans la même pièce. En fait, il y a des matériels qui sont utilisés, qui sont pédagogiques, où il faut faire très, très attention à la qualité, à ce qu'il n'y a pas des solvants ou autres. Il y a eu des actions assez faciles, donc par exemple de mettre dans des pièces à part certains produits. La seule chose qui était donc ressortie, c'est qu'il fallait aérer davantage les pièces. Et donc on a donné ces rapports dans chaque conseil de classe pour sensibiliser les enseignants. Chaque école devait choisir aussi un référent qualité de l'air, qui pouvait aussi sensibiliser les collègues ou de nouveaux arrivants pour expliquer par exemple combien de minutes il fallait aérer quand on n'ouvre qu'une fenêtre, en fait des choses assez faciles comme ça à mettre en place. C'est vraiment une démarche globale sur la qualité de l'air. Il faut savoir que la qualité de l'air dans les pièces, elle est souvent, donc même dans les centres-villes qui sont pollués comme Paris, elle est plus mauvaise qu'à l'extérieur, donc ça fait très peur quand on sait ça. Et puis c'est en fait surtout plus les enfants sont jeunes, plus ils risquent de développer des problèmes plus tard comme des allergies ou de l'asthme ou des problèmes en fait respiratoires. Donc il est très important dès le plus jeune âge en fait de veiller à ce qu'il soit toujours dans un air qui est sain.
Notez que ces capteurs de CO2 représentent un investissement de 6000 euros. Santé toujours avec cette rencontre aujourd'hui autour de l'endométriose à l'hôpital de Briançon. Encore largement méconnue et difficile à diagnostiquer, cette maladie touche environ 10 à 20% des femmes en âge de procréer, avec des conséquences non négligeables, des douleurs chroniques invalidantes pour 70% d'entre elles et une plus grande chance d'être stérile. Suite à l'annonce de la première stratégie nationale de lutte contre l'endométriose par le président Emmanuel Macron en janvier dernier, l'association Endo France a collaboré avec le gouvernement pour mettre en place des filières de soins territoriales. C'est donc le cas en région PACA, avec le centre hospitalier des Escartons à Briançon qui a été retenu pour organiser le maillage et la coordination des différents acteurs dans le nord des Hautes-Alpes. La rencontre de ce mercredi à partir de 20h a pour objectif de présenter aux professionnels de santé les trois avancées de ce projet. La formation des soignants, le déploiement de réunions de concertation pluridisciplinaires et la création d'un lien entre les médecins de ville et de l'hôpital.
Le palmarès du guide Michelin et pas de nouvelle étoile pour nos départements.
Eh oui, mais on garde celle qu'on a quand même. La cérémonie s'est déroulée hier. Alors, pas de nouvelles étoiles dans ce fameux guide, mais toujours une étoile pour la bonne étape à Château-Arnoux-Saint-Auban, une étoile pour le bistronomique à Manosque, une étoile pour la Bastide de Moustier à Moustier-Sainte-Marie et puis bien sûr, une étoile pour l'étable de Gaspard à Saint-Crépin.
Alpes un sport. Et la Ligue Magnus, les Diables Rouges de Briançon pourraient bien pousser un nouveau ouf de soulagement.
Pour la seconde année, alors qu'ils sont derniers au classement du championnat, la Fédération française de hockey sur glace envisagerait le statu quo, c'est-à-dire ni montée en Magnus, ni descente en D1. Elle garderait ainsi les 12 clubs qui évoluent actuellement en élite, selon le magazine L'Équipe. Alors que la Fédération craignait de voir, après la crise Covid, des clubs déposer le bilan, elle avait demandé en novembre dernier au club de D1 de constituer un dossier administratif pour une montée en Magnus. Trois clubs l'ont rendu dans un premier temps, mais n'ont pas complété leur demande avec un montage financier. Ils ont donc arrêté la procédure et n'étaient plus candidats à la montée. Le champion de France de D1, quel qu'il soit, ne montera pas automatiquement en Ligue Magnus. En revanche, si un club de Magnus était sanctionné par la commission de contrôle en juin, il pourrait y avoir un repêchage.
Et les Spinmasters annulés à Vars?
Décidément, la station alpine n'est pas garnie par les circonstances, car après deux épreuves de Coupe du Monde de ski de vitesse et le Challenge Haribo, c'est désormais cette compétition dédiée à la conquête du record du monde qui n'aura pas lieu en 2022. Prévue initialement du 7 au 10 avril, les Spinmasters devaient se tenir sur la piste de Chabrières, la plus rapide de la planète, mais les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Déception donc pour le local de l'étape Simon Billy, qui devra attendre l'année prochaine pour atteindre ce grand objectif de carrière et dépasser la barre fatidique de 254,958 km/h. Un mot pour vous dire également qu'il n'y aura pas Terence Chiknavorian au championnat de France. Fin de saison avec un goût amer pour le ski-crosseur basalpin. Après des Jeux Olympiques ratés, une quête du globe de cristal qui s'est terminée cruellement. Il est désormais blessé et ne participera donc pas au championnat de France de ski-cross.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com.